Bienvenue sur France Inter, mardi 1er octobre. Agnès Soubiran, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, toujours beaucoup de questions. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, comment le feu est-il parti? A-t-il un risque pour la population? Quand les agriculteurs pourront-ils retravailler normalement? Le Premier ministre s'est rendu sur place hier soir pour tenter de rassurer les habitants. On va en parler à 7h50, Léa, avec votre invité.
Oui, pourquoi les propos rassurants du Premier ministre ne parviennent pas à convaincre les populations? Parole ce matin à Delphine Bateau, qui était ministre de l'écologie en 2013 lors d'un premier incident dans cette usine de Rouen.
A tout à l'heure, Léa. Les autres titres, Agnès.
Quand le taxé se fait taxeur, Amazon fait payer aux PME françaises la taxe GAFA. La fébrilité de Donald Trump alors que la procédure de destitution se poursuit. En ce premier jour d'Octobre Rose, un message pour les jeunes femmes qui ne sont pas épargnées par le cancer du sein. La disparition de Jesse Norman, l'immense soprano américaine, et la sortie cette semaine du dernier roman de Patrick Modiano, Encre sympathique.
Invité de France Inter à 8h20 dans le grand entretien de la matinale aujourd'hui, le comédien Fabrice Lucchini. Il est à l'affiche du film Alice et le maire de Nicolas Parizer en salle demain. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. La vérité, on veut la vérité. Slogan scandé hier soir par plusieurs centaines de manifestants qui ont tenté de pénétrer dans la salle où le préfet de Seine-Maritime répondait aux questions des élus locaux. Ambiance tendue. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue ce soir devant le palais de justice de Rouen à l'appel de syndicats et d'ONG environnementales. La vérité, c'est aussi ce que demande la direction de l'usine Lubrizol qui a porté plainte contre X dès samedi et qui se demande, Coralie Moreau, comment un incendie d'une telle ampleur a pu prendre en pleine nuit dans une zone sans activité et sans salariés.
Pour la direction de Lubrizol, le feu est parti de l'extérieur de l'usine. Elle affirme disposer d'images de vidéosurveillance et de témoignages de riverains qui le prouvent. Affirmations qui ne sont confirmées ni par la police, ni par le parquet, ni par les pompiers. Selon nos informations, sur les images d'une caméra, on verrait, c'est vrai, une silhouette à l'extérieur du site, à proximité du lieu de l'incendie, à une heure propice, mais rien qui permette de dire comment et d'où le feu est parti. Ce qui est certain pour le moment, c'est qu'il y a eu plusieurs foyers sur le site de Lubrizol et sur le terrain d'une usine à côté. L'enquête confiée au SRPJ de Rouen et à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement devra déterminer le point de départ de la catastrophe et les responsabilités. Les auditions sont en cours. Les constatations sur le terrain débuteront une fois tout risque écarté pour les enquêteurs.
Coralie Moreau de France Bleu Normandie. Pour tenter de rassurer la population, le Premier ministre s'est donc rendu sur place hier en fin de journée. Il a promis de dire ce que nous savons dès que nous le savons. Ainsi, pour Édouard Philippe, les odeurs sont certes gênantes, mais la qualité de l'air n'est pas en cause selon les analyses. La métropole a de son côté tenu à rassurer la population sur la qualité de l'eau potable après des messages alarmants diffusés sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est aussi ce que demandent les agriculteurs qui vivent en sursis depuis mercredi dernier et que le ministre de l'Agriculture, venu lui aussi sur place hier, a tenté de rassurer. Didier Charpin a assisté à une rencontre avec des producteurs de lait de Bois-Guillaume.
On a besoin vraiment que vous nous donniez des réponses parce qu'on a besoin aussi de retrouver un peu de sérénité. Là, depuis jeudi, on est quand même un peu sur les nerfs.
Sitôt arrivé, Didier Guillaume est entouré par des producteurs de lait excédés par la situation.
Nous, sur une exploitation comme la nôtre, rien que sur l'atelier lait, on perd 1 000 euros par jour. Donc ça, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si le mois prochain, il nous manquait 20-25% de la paye de lait, ça pourrait être compliqué pour les engagements qu'on a vis-à-vis de la banque.
Comme beaucoup d'agriculteurs, l'homme rembourse chaque mois de lourds emprunts. Pour l'instant, il est obligé de jeter son lait et donc son argent. Didier Guillaume promet de l'aider à faire face.
C'est une catastrophe industrielle qui vient de se passer. On espère qu'elle ne se transformera pas en catastrophe écologique pour qu'elle ne se transforme pas en catastrophe agricole. Vous, vous êtes des victimes. Donc vous devrez être indemnisés en totalité de ce que vous avez perdu. Vous allez avoir des avances. Et puis, c'est le principe de pollueur-payeur. Donc, il faudra, le moment venu, ça prendra du temps, que l'entreprise qui est responsable de cela paye. Entre-temps, il faudra faire le lien avec les assurances, avec l'État. C'est ce que nous voulons faire.
Mais faire vite, diront les agriculteurs. Pour l'instant, Didier Guillaume ne donne pas de montant. Trop tôt, dit-il, tant que l'arrêté est en vigueur, il est impossible de chiffrer le préjudice.
Reportage de Didier Charpin. Et rappelons qu'à 8h moins 10, Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'écologie, sera l'un l'invité de France Inter. Bientôt fini la course aux certificats médicaux à chaque rentrée dans le cadre du budget de la Sécu pour 2020. Le gouvernement a annoncé hier une mesure de simplification pour les moins de 18 ans, suivie régulièrement par un médecin. Les parents pourront ainsi remplir une attestation sur l'honneur.
Il est 7h05, Agnès. Amazon met sa menace à exécution en France.
Moins d'un mois après l'adoption de la taxe sur les GAFA qui prévoit de ponctionner de 3% le chiffre d'affaires des géants du numérique, Amazon a donc décidé de faire payer les vendeurs et ça commence aujourd'hui. Les fabricants devront s'acquitter d'une taxe de 3% pour continuer à être répertoriés sur le site de vente en ligne. Près de 10 000 PME françaises sont concernées et le moins qu'on puisse dire, Manuel Ruffez, c'est qu'elle n'apprécie pas cette décision unilatérale.
J'ai tous les mails de nos adhérents sous les yeux, confie le président de la section commerce de la Confédération des petites et moyennes entreprises, mais vous aurez du mal à trouver des témoignages, prévient-il, ils ont peur des mesures de rétorsion. Et voilà en quelques mots résumé la situation prépondérante qu'occupe aujourd'hui Amazon, qui va donc faire payer à tous sa hausse des commissions. Xavier Douet de la CPME.
On a beaucoup de retours de commerçants qui ont confié une partie du développement de leur structure à une plateforme, et en l'occurrence Amazon. Et aujourd'hui, bien, ils sont pieds et poings liés avec ces gens. Et donc, comment voulez-vous qu'ils fassent ? Donc, ils sont dans un désarroi important.
Sur un produit à 100 euros, Amazon en gardait en moyenne 15 jusqu'à présent. Ce sera donc plus 3% de ces 15-là, soit 15,45% désormais et sans négociation possible.
On peut analyser ça comme de la provocation, puisque clairement on écrit, on nous impose une taxe et on vous l'impose à vous également, sans même pouvoir en discuter. Donc forcément, 3% de la marge, c'est quelque chose de très important.
Dans un communiqué, Amazon l'affirme, dans ce secteur du commerce de détail très concurrentiel et à faible marge, nous ne sommes pas en mesure d'absorber cette taxe supplémentaire.
La forte hausse des immatriculations de voitures neuves en France le mois dernier, plus 16,60%, avec près de 173 500 véhicules neufs en circulation. C'est le groupe Renault qui enregistre la plus forte progression, près de 22%, contre 8,5% pour le groupe PSA. Le marché reste en baisse depuis le début de l'année, moins 1,28%, mais dans des proportions beaucoup moins importantes.
Et à 7h07, Agnès, cette démonstration de force à Pékin pour les 70 ans de la Chine communiste.
Rien ne peut ébranler la nation chinoise, a déclaré le président Xi Jinping depuis la porte de la paix céleste, la même où Mao Zedong a proclamé la République populaire. C'était donc le 1er octobre 1949. L'anniversaire est aussi l'occasion d'une démonstration de force avec un défilé où sont présentés de nouveaux chars et de nouveaux missiles. À Hong Kong, les autorités sont sur les dents pour éviter toute manifestation hostile. Dans le journal de 8h, nous serons en direct de Pékin et de Hong Kong. Démonstration de mauvaise humeur à la Maison-Blanche où le président ne décolère pas depuis le lancement de la procédure de destitution. L'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a reçu l'ordre de livrer des documents liés au dossier ukrainien à la commission du renseignement qui poursuit donc ses investigations et prépare un vote à la Chambre des représentants. Grégory Philippe, c'est à Washington pour France Inter.
S'il faut juger la fébrilité ou l'agacement de Donald Trump au nombre de tweets publiés, alors le président américain est très fébrile et très nerveux. En tout, pour la seule journée d'hier, une vingtaine de messages, presque tous consacrés à cette affaire ukrainienne et dans lesquels Trump tonne contre un risque de guerre civile aux États-Unis ou encore appelle à l'arrestation pour trahison d'Adam Schiff, le représentant démocrate qui, à la Chambre, dirige cette puissante commission du renseignement. À la Maison-Blanche, le vernis craque de partout. Hier soir, le Wall Street Journal a révélé que le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, était aussi présent lors de ce coup de téléphone de la fin juillet à Zelensky. Le secrétaire d'État devra s'expliquer devant le Congrès. Enfin, Trump, comme tout le monde, lit les sondages et voit que de plus en plus d'Américains pensent qu'il doit être non seulement soumis à une procédure d'impeachment, mais aussi destitué. Ils étaient 37% il y a une semaine, 47% aujourd'hui. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et le New York Times affirme que lors d'un récent coup de téléphone, Donald Trump a demandé une faveur au Premier ministre australien, lui demandant de rassembler des informations pour discréditer l'enquête russe du procureur Robert Mueller. La dernière rencontre entre le PSG et Galatasaray il y a 18 ans a laissé de bien mauvais souvenirs avec des affrontements violents dans les tribunes du Parc des Princes. Cette fois, ce sont les Parisiens qui jouent à Istanbul ce soir pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Retour en France avec le début d'Octobre Rose et et l'Institut Curie met l'accent cette année sur le cancer du sein avant 40 ans. Cela concerne 3000 femmes par an. Le choc est d'autant plus grand qu'à ce moment-là, on ne s'y attend pas, on se surveille peu, d'où souvent des retards au diagnostic. Alors le message cette année, Véronique Julia, c'est de ne jamais négliger une petite anomalie.
En décembre dernier, Alicia, 33 ans, se découvre par hasard une petite boule au sein droit. Pas d'antécédents familiaux, son médecin la rassure. Mais bon réflexe, il demande tout de suite une mammographie.
15 jours après, je faisais une biopsie, c'était un cancer. Donc le docteur me l'a annoncé. Là, j'ai pensé à mes parents. Je me suis dit, comment je vais pouvoir leur dire? Et puis bon, on y va quoi.
La tumeur est prise tôt. Elle est petite, 2 cm, mais il faut aller vite.
C'est un cancer hormonodépendant avec un indice de prolifération, en effet, qui était important. Ça veut dire qu'il y avait des risques que ça métastase dans le corps vite, en fait.
Chirurgie, chimiothérapie, rayon. Pendant 9 mois, Alicia vit toutes les étapes. Elle perd ses ongles et ses cheveux.
Après la première séance de chimiothérapie, vous commencez à perdre vos cheveux, en fait, hein, par poignée.
En pleine ascension professionnelle, Alicia n'a jamais arrêté de travailler. Son entreprise a été aidante et compréhensive. La vie maintenant, c'est d'abord voir repousser ses cheveux, trouver l'amour, faire des enfants peut-être, mais vu son traitement, ce ne sera pas avant au moins 2 ans.
Quand on a un cancer hormonodépendant comme moi, il faut faire 2 ans d'hormonothérapie à temps plein avant de faire un projet d'enfant. On verra. Pour trouver le papa, hein, c'est un gros boulot aussi.
Pour préserver sa fertilité, Alicia n'a pas voulu congeler ses ovocytes. Elle a choisi une autre méthode qui consiste à mettre provisoirement ses ovaires en sommeil pour les protéger de la chimio.
Une immense voix s'est tue. La cantatrice américaine Jessie Norman a succombé à une septicémie hier à New York. Elle avait 74 ans. La soprano avait su conquérir le public dans le monde entier avec sa voix sombre et majestueuse que nous entendrons dans le journal de 7h30.
Encre sympathique. C'est le 29e et nouveau roman de Patrick Modiano.
Le prix Nobel de littérature 2014 nous raconte l'histoire d'un enquêteur amnésique, un roman écrit à la première personne. Ilana Mourioussef.
C'est du Modiano pur, résumé par la citation de Maurice Blanchot, placée en exergue du livre « Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient le souvenir ». Le narrateur se souvient que vers l'âge de 20 ans, il a été employé quelque temps chez un détective privé. Sa première mission, partir à la recherche d'une certaine Noëlle Lefebvre, disparue 3 semaines auparavant de son domicile parisien. Il ne dispose que de maigres indices, une adresse et une photo bien inutiles. On ne saurait dire la couleur des yeux, ni d'ailleurs des cheveux, du reste, on distingue à peine les traits. Autant dire que dans sa quête de plusieurs dizaines d'années, le narrateur ne doit pas compter sur les indices matériels qui se dérobent, comme ce carnet trouvé dans un tiroir à double fond, où il a l'impression de lire des notes qui n'y étaient pas, comme si tout était déjà écrit à l'encre sympathique, attendant que l'oubli ait terminé son œuvre avant de laisser la place au ressouvenir.
Encre sympathique de Patrick Modiano, publié aux éditions Gallimard en librairie dès jeudi, et dans le même temps, Souvenir dormant ressort en collection.
Merci Agnès Soubiran.